Bonjour à toutes et à tous. Je vais revenir aujourd'hui sur l'émission précédente où j'ai été interrogé. Alors, j'avais présenté cela comme des conseils aux candidats à la présidence de la République, mais tout le monde a compris que c'était une blague. Mais par contre, le sujet qui semble intéresser la plupart des auditeurs, c'est effectivement celui, on peut dire pudiquement, celui des quartiers sensibles et le rapport de l'architecture et de l'urbanisme, puisque c'est le thème de notre émission, comme intervenant, comme solution, et en tout cas, la place que cela prend dans le débat public ou la place que cela ne prend pas. Alors, j'avais réagi par rapport à certaines déclarations, mais qui ne sont pas forcément celles des candidats, mais qui parlaient que le seul moyen de résoudre le problème de ces quartiers dits sensibles, c'était leur démolition. Donc là, je vais revenir là-dessus parce que il s'agit, je pense, de la pensée magique, parce qu'on pense qu'on peut faire disparaître, comme le prestidigitateur va faire disparaître dans son chapeau le pigeon, etc. Bon, là, ou le lapin. Donc, la démolition, c'est la démolition des bâtiments. Et c'est aussi une erreur fondamentale de penser que les bâtiments sont responsables. Alors, c'est un sujet qui a son importance. C'est un sujet qui a son importance parce qu'en fait, les architectes sont ambigus sur cela puisque ils ont d'une part une responsabilité dans laquelle on dit, regardez, ces grands ensembles, ces grandes barres sont responsables de tous les maux de la France. Et donc vous, les architectes, vous êtes responsables. Alors il est vrai que aujourd'hui, les gens qui ont construit les grands ensembles, s'ils ne sont pas morts, ils sont très vieux. Donc la recherche de coupables est assez difficile. Donc les générations suivantes peuvent dire ah, ne pas nous, c'est pas notre faute, nous n'avons rien fait et nous avons la solution. Et c'est vrai qu'il est assez valorisant pour les architectes de penser que ils ont à travers la construction l'agencement des constructions entre elles, ils ont les clés du bonheur de la société. Alors ça fait partie de fantasmes que trimballe à la profession, c'est aussi ce que l'on apprend dans les écoles et je m'inscris en faux comme cela. Alors, je ne suis pas totalement imbécile. Il est évident qu'il vaut mieux vivre dans un palais que dans un taudis, mais il ne s'agit pas de ça. Il s'agit simplement de dire que la forme, l'agencement peut produire dans un cas de la violence et dans un cas de la paix. Donc, on va démolir, reconstituer, rebâtir, chacun ayant la vérité. Bon, ce cinéma, il dure depuis 30-40 ans, et effectivement, il n'y a pas un véritable débat, il n'y a pas, comment dire, il n'y a pas de véritable évaluation, c'est-à-dire de dire, écoutez, vous nous avez dit ça, par exemple, dans un concours, vous nous aviez annoncé cela, vous l'avez fait et ça ne s'est pas passé. Alors, on pourrait en tirer des conclusions ou regarder et comparer les expériences. Ouh là là, c'est un jeu très dangereux et personne ne veut faire cela. On préfère être dans la pensée magique. Et la pensée magique, c'est de penser que les bâtiments sont responsables. Alors, j'avais déjà cité Gérard Collomb, qui a été ministre de l'Intérieur et très longtemps maire de Lyon, disant, revenant après des émeutes, je crois, à Mantes-la-Jolie, je comprends ces émeutes quand j'ai vu les grandes barres ou la longueur des grandes barres d'habitation. Alors, voilà, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une relation entre l'alignement d'un immeuble et la violence, c'est-à-dire que vous sortez dans la rue et vous allez casser les flics, voler les voitures, faire du deal parce que votre immeuble est une barre. Alors il faudrait rappeler aussi que si vous regardez autour de vous, la rue Alsace est une barre et je ne sais pas, par exemple le Grand Palais à Paris ou la rue de Rivoli qui fait près de 2 km et sous l'initiative de Napoléon Ier, c'est la répétition du même motif, parce que au-delà de l'alignement de bord, on disait il y a une architecture répétitive et monotone. Donc on avait aussi interdit, c'était Guichard, le ministre qui avait fait cela, il avait interdit que ce soit le même architecte qui fasse le bâtiment, qui fasse le dessin du bâtiment, parce que la répétition et la monotonie étaient aussi, engendraient la violence et l'insécurité. Bon, tout ça sont des fantasmes, mais ce sont des fantasmes qui ont la vie dure, non seulement qui ont la vie dure, mais enfin qui génèrent une politique, qui est une politique extrêmement coûteuse de démolition et de remplacement d'immeubles. On ne sait jamais très bien ce qu'il faut remplacer. Comme je disais à mes étudiants avec un humour noir, si on avait voulu résoudre le problème tel qu'il est posé, il fallait démolir les immeubles avec les habitants dedans. Bon, bien sûr, c'était du très mauvais humour. Mais enfin, ça voulait dire qu'il y a un problème qu'on essaie de connecter, la relation entre la boîte et le contenu de la boîte. Donc, les problèmes sont des problèmes de population. Je ne suis pas là pour faire de la politique sur l'immigration, etc. Mais il suffit quand même de rappeler certaines choses. Alors, c'est ce que l'on a appelé l'architecture criminogène, comme si les bâtiments pouvaient générer le crime. Bon, c'est l'histoire du couteau qui serait coupable que l'on condamnerait. Alors, avec un couteau, vous pouvez couper du pain, vous pouvez faire une sculpture, et oui, c'est exactement aussi, vous pouvez tuer quelqu'un, mais le couteau n'est pas coupable. Donc, blague à part, c'est en fait les arguments qui sont employés avec cette histoire d'architecture criminogène. Alors, il y a aussi l'emploi d'autres mots. On emploie par exemple le mot « ghetto ». On parle des ghettos. Alors, ça me gêne à plusieurs titres. D'une part, le mot « ghetto » est un mot historiquement qui était les endroits réservés dans les villes aux Juifs pendant le Moyen-Âge et la Renaissance, pour des raisons qui étaient à la fois de ségrégation, c'est-à-dire que dans un monde chrétien, les gens qui n'avaient pas la religion chrétienne, c'était donc les gens de religion juive, étaient dissociés des autres personnes du corps social et avaient d'ailleurs des métiers interdits, comme on le sait, paysans, etc. Enfin, il y avait des métiers qui étaient réservés. Donc là, on était dans un rapport de théocratie, dans un rapport religieux, et le ghetto était à la fois une manière d'isoler les Juifs, mais aussi, par exemple, à Venise, il y avait une volonté de la communauté juive d'avoir des grilles que l'on fermait le soir pour éviter les pogroms et pour éviter justement les exactions contre cette population. Donc c'est quelque chose en plus. On a tous à l'image l'horreur du ghetto de Varsovie, et donc il y a à la fois l'histoire ancienne, il y a aussi l'histoire récente par rapport à cela. Donc je crois que ce mot ghetto, que l'on emploie d'ailleurs pour les États-Unis, on dit les ghettos noirs, c'est un mot qui n'est pas employé, on dit aux États-Unis on parle de quartier noir, black neighborhood, on ne parle jamais de ghetto, et là aussi c'est une extension française qui me paraît aussi très dangereuse et désagréable. Donc il ne s'agit pas d'endroits qui sont fermés avec des grilles, mais au contraire, c'est le contraire, c'est-à-dire qu'il y a des endroits où la force publique ne peut pas rentrer et c'est tout à fait différent. Donc, on parle aussi, en plus du ghetto, on parle, et ça c'est quelque chose qui est assez commun, on parle de population en résidence. On parle on parle justement comme si ces populations étaient interdites de sortir, assignées à résidence. C'est ça l'expression est exacte. Alors, assignées à résidence, c'est un terme judiciaire, on le sait très bien. Ce sont des gens qui sortent de prison ou qui ont une avec un bracelet électronique ou ont une limite de d'action ou ils sont obligés de rester à un endroit précis. Donc, il ne s'agit absolument pas de cela. Et d'ailleurs, il y a une erreur qui est totale de lecture. On va parler des choses clairement. Il s'agit donc de populations qui sont issues de l'immigration, alors notamment ce que l'on est en train de fêter, je sais pas, entre guillemets, l'indépendance de l'Algérie. Il y a eu donc des populations à la fois françaises, que l'on appelle les rapatriés et les immigrés, et qui ont été logés dans ces quartiers. Alors, ces populations, depuis 62, il faut dire que la population aujourd'hui qui est faite, puisqu'on parle de jeunes des quartiers, c'est pas du tout la même. Ce ne sont pas ces populations ne sont plus là. Donc il y a un flux de remplacement, on peut dire une noria avec de l'immigration, et c'est d'ailleurs l'erreur que l'on commet bien souvent en accusant les organismes HLM, c'est-à-dire les organismes qui bâtissent et qui louent, les bailleurs sociaux, les logements à loyer modéré, qui seraient responsables de cette situation. Bon, ils ne font que gérer une réalité qui est totalement autre, c'est-à-dire que depuis 62, il y a eu plusieurs vagues de populations qui sont partie justement de ces grands ensembles, entre guillemets, de ces quartiers, et qui ont été remplacés par d'autres. Donc, mon propos n'est pas de faire un jugement sur l'immigration, simplement de rappeler des faits, et en fait, si on ne sait pas ce qui s'est passé, si on a une vision qui est fausse de l'histoire, une vision qui est fausse de nos peuplements, une vision qui est fausse sur la manière et sur la dimension des territoires, on a des aberrations. Et on a effectivement des pensées magiques et des solutions politiques et architecturales et urbanistiques qui sont complètement à côté de la plaque. Donc, tout ça est important, et je crois qu'aujourd'hui, de mal nommer les choses, d'avoir des erreurs aussi graves sur l'histoire et sur la répartition des populations, et serait, je pense, la première des choses à corriger, et ainsi, on pourrait avoir une meilleure vision des solutions à apporter. On va marquer une pause musicale et on va continuer sur ce même sujet. We'll be right back. Alors il y a aussi une autre explication qui serait une explication, alors la première, comme je vous disais, c'était architecturale, c'était une explication par la dimension, les tours, les barres, l'agencement, et aussi il y en a une deuxième qui est de penser que ce sont des taudis, et donc ça serait une explication de la pauvreté qui générerait la violence, ou du moins la misère dans l'habitation. Alors ça a existé. Il y a eu des bidonvilles autour de Paris, autour des grandes villes, mais tout cela a été résorbé. Et aujourd'hui, on peut dire que ces logements sociaux, ils ont été depuis leur construction, ils ont été rénovés. Aujourd'hui, il y a en plus une obligation de la part des bailleurs, qui soient sociaux d'ailleurs ou pas sociaux, d'isolation, d'entretien. Enfin, bon, tout cela est une réalité. Donc, on peut dire que le parc immobilier est un parc qui est aux normes et qui ne fait pas du tout une discrimination entre les populations. Donc, tout cela est évidemment basé sur des constats qui sont pas très très réalistes, et au contraire, il y a eu beaucoup d'argent qui a été fait par les différents plans, et je pense d'une manière assez inutile, parce que on était toujours et on est toujours sur l'analyse du rapport entre la boîte architecturale et le contenant et le contenu. Alors, une des solutions, comme j'avais dit, c'était donc, alors il y en avait une qui était la première, c'était la rénovation, la démolition partielle ou la démolition radicale totale pour le remplacer par on ne sait quoi, toujours pareil, c'était la pensée magique. On allait faire des lieux où on serait comme sur les images des promoteurs, on aurait toujours des gens jeunes dans des parcs de la nature ensoleillée, et on remettrait une couche d'arbres, d'écologie. Bon, on sait tout cela, mais ce n'est pas ça la réalité. La réalité, elle est sociale, donc ce n'est pas mon rôle ici de faire des propositions sociales, simplement de cloisonner les responsabilités. Alors, il y a une deuxième solution généralisée, on peut dire partager à peu près tous les partis politiques, c'est la mixité sociale. Alors, la mixité sociale, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faudrait mélanger les populations. Et comme les populations ne se mélangent pas naturellement, alors on va vous parler évidemment des assignés à résidence, mais en France, personne, il n'y a pas de quartier assigné à résidence, il n'y a pas de quartier comme le ghetto de Venise avec des grilles et des chaînes, donc tout le monde est libre de loger où il veut et d'habiter où il veut. Et d'ailleurs que les bailleurs sociaux ont des différents types de logements qui ne sont pas forcément que des immeubles tours, il y a une grande variété. Donc tout ça est assez faux. Donc la mixité, reprenons l'idée fondamentale de la mixité sociale. La mixité sociale, c'est une théorie qui veut que les gens, en se mélangeant, en mélangeant à la fois les couches sociales et aussi les activités, eh bien, il y a une sorte de phénomène chimiquement pur qui se crée, qui fait que la violence décroît et que nous sommes dans une paix sociale et dans une harmonie. Bon, je pense que on ne fait pas de véritable rapport à l'histoire, si ce n'est que là aussi, pensée magique, on va rêver de villes anciennes qui auraient été des exemples de mixité sociale. Alors donc la ville médiévale, la ville d'avant, on oublie bien sûr la réalité qui est totalement autre. Il y avait par exemple, pour reprendre notre bonne ville de Toulouse, il y avait les quartiers de la cathédrale qui sont comme toujours aujourd'hui, des quartiers qui sont faits d'hôtels particuliers et résidentiels dans lesquels il n'y a pas d'activité. Puis on a de l'autre côté de l'axe nord-sud qui était le Filatier Saint-Rome et qui a été redoublé par Languedoc et Alsace-Lorraine, on a entre Garonne et justement cet axe vertical, on a les quartiers qui étaient les quartiers populaires. Aujourd'hui, évidemment, ils le sont beaucoup moins, il y a le souvenir des métiers. Donc, on avait déjà des villes avec des quartiers, et on peut dire qu'au niveau social, on n'était pas dans l'unité que l'on a aujourd'hui. Il y avait des marquages sociaux qui étaient... on ne passait pas d'une classe sociale à une autre. Les aristocrates se mariaient entre eux, la grande bourgeoisie également, les ouvriers restaient ouvriers, et les gens du peuple, les paysans, etc. Il n'y avait absolument aucun passage d'un groupe social à un autre, et d'ailleurs les marquages étaient particulièrement visibles, puisque on était habillé d'une manière totalement différente suivant la classe sociale à laquelle on appartenait. Donc il est quand même assez curieux de voir qu'une France républicaine prend comme modèle une sorte de rêve médiéval, aristocratique, royaliste. C'est absolument, totalement absurde. Donc au contraire, c'est maintenant que nous sommes dans une égalité beaucoup plus réelle, en tout cas en apparence pour le moins, et la possibilité de passer d'une classe sociale à une autre, évidemment, c'est une évidence que l'on peut voir autour de nous. Donc, cette mixité historique souhaitée est en l'heure. Alors, qu'est-ce que l'on veut avec la mixité aujourd'hui? Bon, c'est quelque chose qui est assez surprenant, c'est-à-dire on va forcer, parce que on sait que les gens qui se ressemblent s'assemblent, préfèrent être avec des gens qui leur ressemblent. Alors, c'est pas forcément au niveau argent, mais c'est au niveau études, au niveau métier, au niveau goût, au niveau sport, au niveau âge, que sais-je donc. Il y a effectivement les groupes qui sont formés dans une société, et je pense que une autorité qui va imposer une sorte de mixité avec des quotas de pourcentage, comme ça a été fait avec la loi Guesso, qui était une loi qui avait été initiée par un ministre communiste, je crois aussi quand même qu'il y a une volonté de réguler l'ordre social d'une manière autoritaire et qui me semble contraire aux principes républicains qui justement créent en rupture avec la ville aristocratique, justement la possibilité d'être propriétaire, de choisir le lieu où on pouvait habiter, et on était justement dans ces rapports de ces sociétés qui étaient des sociétés absolutistes anciennes. Donc tout cela est assez paradoxal. Dans ce principe de mixité, il est encore une fois un principe magique. On pense que si on met dans un immeuble des personnes qui vont être d'origine étrangère, des immigrés, des pauvres, avec des riches, eh bien il va y avoir une sorte de brassage social et une harmonie qui va se faire. Alors l'harmonie, elle peut être faite parce qu'effectivement, comme dans l'immeuble haussmannien, là aussi, qui est cité comme exemple, on peut avoir les bonnes c'était le 8e étage, ou du 6e étage, le film avec Lucchini et Sandrine Kimmerlin, qui faisait une caricature très amusante et drôle de, ça se passait je crois dans les années de l'après-guerre, dans les années 50-60, où on avait les bonnes espagnoles qui étaient sous les combles, et les bourgeois qui n'avaient aucune idée de la manière dont vivaient leurs propres domestiques dans le même immeuble. Donc cette mixité avec l'escalier de service et aussi évidemment n'existait pas, c'était une mixité, on peut dire, de maître-esclave et comme l'on pouvait trouver justement dans l'Antiquité. Donc je ne crois pas à ces rapprochements physiques, surtout quand ils sont imposés, et ça ne me paraît pas des solutions sociales. Donc la solution sociale, c'est une solution sociale, et c'est pas dans cette émission, qui est une émission sur l'architecture et sur l'urbanisme, que je vais vous donner les solutions. Mais en tout cas, je vous empêche de penser à des solutions, en tout cas qui ne sont pas celles-là, et qui sont des fictions, et comme je vous disais, de la pensée magique. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine. Thank you.